Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.com.
Je n'aurais pas songé à donner une fête dans un endroit pareil. Tu sais, Dina, je pense que nous ne devrions pas faire ça. Ce n'est pas correct. Après tout, personne ne m'a invité. Et la curiosité est un défaut qui attire des ennuis.
The rap battle begin!
When you look into the mirror, I'm sure you're distressed. Your book borrowed my look, you're even wearing my dress. I've been rocking this game since before you were born. This corny copy's lost because she ain't in Kansas anymore. I'm surprised your garbage squad hasn't fallen apart. Yellow-bellied, empty-headed, that one's got no heart. Double killers, caterpillars, and a madman in my can put you on blast, I gotta ask, who are you?
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à Alice au Pays des Merveilles, création de Lewis Carroll qui a engendré toute une mythologie. Nous causerons entre autres de la version signée en 1933 par Norman Z. MacLeod, disponible chez Elephant Film, de celle beaucoup plus olé olé que Bud Townsend, signée en 1976, Alice in Wonderland, an X-rated musical fantasy. Mais on parlera aussi du Jefferson Airplane, de Batman, de Chinatown, de Resident Evil, vu par Paul W.S. Anderson et Coraline d'Henry Selick. Enfin, on fera tout ça si on a le temps, car cet univers est si dense et fou que nous n'aurons que trop peu de temps dans cette émission, ça j'en suis sûr.
He's on down the road, cause shiz is gonna get scary. What's your battle plan? I don't think you understand. A coward, Dalton, bag of bolts, can't step to Wonderland. Don't make me light up your friend, cause he's met his match. A stitched together strawman that stinks like Bandersnatch. You're washed up and washed out, you're fading and thus. Click your heels together, baby, and bugger off to Kansas.
Deux chapeliers fous sont de la partie. Aujourd'hui, pour co-animer cette émission, je veux bien sûr parler du dynamique duo composé en premier lieu de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
Salut Damien, salut GG et bien évidemment salut à toutes.
Alice commençait à être fatiguée de rester assise près de sa sœur sur le talus. Elle n'avait rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur. Mais il n'y avait pas d'image ni de dialogue. Et à quoi peut servir un livre sans image ni dialogue, pensait Alice. Elle était en train de se demander très vaguement, car la chaleur l'engourdissait, si le plaisir de faire une guirlande de marguerites valait la peine de se lever. Et de cueillir des marguerites. Quand tout à coup, un lapin blanc, avec des yeux rouges, passa devant elle. La chose n'avait en soi rien de très étonnant, et Alice ne trouva pas non plus très étonnant d'entendre le lapin murmurer « Oh, mon Dieu, je vais être en retard !» Plus tard, elle se dit qu'elle aurait pu s'étonner, mais à ce moment-là, la chose lui sembla toute naturelle. Mais quand le lapin prit une montre dans la poche de son gilet, la regarda et galopa de plus belle, Alice bondit sur ses pieds. car elle venait brusquement de comprendre qu'elle n'avait pas encore vu de lapin porter un gilet ni tirer une montre de sa poche. Et, brûlant de curiosité, elle courut derrière lui dans le champ, juste à temps pour le voir s'engouffrer dans un large terrier sous la haie. Ainsi débute l'ouvrage « Alice au pays des merveilles » de Lewis Carroll, et Alice va alors pénétrer dans un monde qui va contribuer évidemment à l'éveil de ses sens, puisque vous connaissez quand même toutes et tous cette histoire, même si beaucoup la connaissent à travers alors à la fois la vision du dessin animé de Walt Disney, et puis pour les générations les plus récentes, à travers le triste film de Tim Burton, film récent complètement loupé. Et donc nous, on a voulu revenir sur les différentes visions d'Alice au Pays des Merveilles, mais aussi sur son impact, l'impact de ce livre, qui est quand même assez étonnant, l'impact de ce livre, sur la culture populaire. Parce qu'au départ, bon, c'est un livre comment dire, qui est souvent publié avec sa suite, donc de l'autre côté du miroir, qui est la suite. Souvent, il y a Alice au Pays des Merveilles, plus de l'autre côté du miroir, dans le même ouvrage. Le titre original, c'est Alice's Adventures in Wonderland. Donc, c'est souvent abrégé dans Alice au Pays des Merveilles, alors que le titre français, c'est Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Et c'est un roman qui a été écrit en 1865 par Lewis Carroll, qui est en fait le pseudonyme de Charles Ludwig Dodgson, qui est en fait un mathématicien. Et à l'origine, c'était pas un livre pour les mômes, en fait. Et puis, il a repris toute l'écriture du livre pour l'adapter aux enfants et en conserver les personnages un peu merveilleux qui rendaient la lecture attrayante pour les plus jeunes. Et les plus jeunes qui ne percevaient pas forcément toutes les allusions satiriques aux amis de l'écrivain, bien sûr. Et par contre, il s'était arrangé, Lewis Carroll, pour glisser des éléments qui faisaient partie des leçons que les écoliers devaient apprendre à l'époque où il écrit le livre. Car effectivement, c'est un ouvrage de mathématicien, c'est un ouvrage qui joue sans cesse avec la logique, et tout comme sa suite, d'ailleurs, de l'autre côté du miroir. Et nous, on voulait un peu explorer cet univers, ne serait-ce que parce que, donc, il y a peu de temps, il y a le film de Norman Zim McLeod qui a été réédité, qui était inédit quand même en France, qui est un film culte, qui a été édité par Elephant Film. Et l'idée, c'était un peu de revenir sur ce film et de partir de ce film et de développer, de parler un peu du bestiaire, il y a la sœur d'Alice, il y a la chatte Dina, il y a la souris, le canard, le dodo, le lori, l'aiglon, la duchesse, la cuisinière, le bébé, le valet de pied, tout ce qui est en lien avec le jeu de cartes aussi, le roi de cœur, la reine de cœur, le valet de cœur, le lapin blanc, le chat du Cheshire, la chenille, le pigeon, le lièvre de Mars, important, le lièvre de Mars, qui est une figure qu'on va retrouver dans des films aussi étonnants que The Wicker Man, par exemple, de Robin Hardy, le fameux chapelier dont je parlais tout à l'heure, la simili-tortue, enfin tout ce bestiaire étrange qui constitue effectivement le sel de cet ouvrage, qui est quand même un ouvrage vraiment étrange, en fait, quand on regarde bien et au vu des adaptations qui ont été faites. Alors, quand on regarde le film de Norman Z. McLeod, là, qui vient de sortir, bon, je ne vous raconte pas l'histoire, c'est un film très fidèle au livre, voilà. Et c'est un film qui va être beaucoup repompé par Disney pour faire sa version animée, en fait. Ils vont reprendre beaucoup d'éléments de ce film. On peut supputer que vous connaissez l'histoire de ce film. Ce qui est assez étonnant avec ce film, c'est plutôt toute l'équipe qui va travailler sur le film. Déjà, Norman Z. McLeod, c'est un réalisateur qui a accompagné les Marx Brothers. C'est lui qui fait Monnaie de singe, par exemple. Et donc, il y a un réalisateur un peu spécialisé dans l'absurde, dans l'étrange. D'ailleurs, il y a des moments au niveau visuel et au niveau esthétique dans ce film qui seront repris par les Monty Python, par exemple, dans leur Monty Python Flying Circus, tout ça. Enfin, on voit bien que le côté absurde de Norman Z. McLeod n'a pas échappé aux humoristes britanniques. Et ce qui est aussi assez étonnant dans ce film, c'est qu'il comporte au scénario un certain William Cameron Menzies. Et William Cameron Menzies, c'est l'un des plus grands chefs décorateurs de son époque. Hein. Le voleur de Bagdad, de Raoul Walsh en 24, Autant on emporte l'avant de Victor Fleming en 39. Et puis, surtout, c'est pour les fans de science-fiction, l'homme qui a réalisé et qui a fait la direction artistique des Envahisseurs de la Planète Rouge, qui est un film rempli d'idées, rempli de délires graphiques, qui est assez... exceptionnel d'un point de vue visuel. Moi, c'est pas un metteur en scène qui me convainc complètement, mais visuellement, c'est les Envahisseurs de la Planète Rouge, c'est quelque chose. Invaders from Mars. Mais là, il signe le scénario parce qu'en fait, c'est un scénario plein d'indications sur les effets spéciaux, les décors, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il est impliqué dans le scénario parce qu'il est jamais scénariste, là, d'habitude, William Cameron Menzies. Did you ever see an oyster walk? Did you ever hear a turtle talk? Did you ever see a caterpillar puffing on a pipe? Or a mouth with a sail on the tip of a tail? Certain little girl once did, and she got into a hole, poor kid. Yeah, she got into a hole of a funny old bunny, and down, down, down she slid. Of course you understand, the girl was Alice, and little Alice was thrilled she could be. The place was Wonderland, where even rabbits have human habits, the land of Tweedledum and Tweedledee. In the kitchen was an ugly cook, and the Duchess with an ugly look. And the Duchess had a baby that was turned into a pig, and the cook was a bear when she flung kitchenware. Alice even saw their queen, but she didn't even dare to call. If you whispered when the queen made a ruling, no fooling, she'd have your head chopped off. But Emma was a scene, so topsy-turvy, but she was nervy and didn't even scream. But she was made a queen and had a palace. Then little Alice awoke and found her Wonderland a dream. Autre donnée importante dans ce film, c'est le casting de stars. Elles sont toutes maquillées, donc on ne les reconnaît pas. Donc c'est assez étrange d'un point de vue commercial. C'est presque un suicidaire. D'ailleurs, le film ne va pas marcher du tout. Hein. Le film va faire un flop. Il va devenir culte. Avec le temps, il va faire un flop. Par exemple, on retrouve Gary Cooper, Cary Grant, W.C. Fields, qui sont complètement grimés et totalement méconnaissables. Voilà, on ne peut pas deviner que ce sont eux, sincèrement. C'est difficile. Peut-être à la limite de W.C. Fields et encore, mais sinon, c'est très, très compliqué. Donc film vraiment hors norme, avec ce casting assez délirant. Et ensuite, le film, qu'est-ce qu'il porte, le film ? Par moments, il est étonnant. Par moments, il y a des moments de mise en scène, je pense à ce travelling avant sur l'œuf, par exemple, dans la boutique, des moments comme ça, des moments assez étranges, dissonants. Et puis, ce qui ressort aussi de ce film, au global, je trouve, c'est un univers visuel très, très, très développé, très, très étonnant, mais le film a un petit côté malaisant, je trouve. Voilà, tous ces personnages sont un peu effrayants, ils sont pas très beaux, ils sont... C'est un film vraiment que je trouve un peu étrange. C'est une sucrerie pour enfants qui fait un peu peur aux adultes, je trouve. Voilà, qui est un peu un film bizarre. Voilà, j'ai envie de dire un film bizarre.
J'ajouterai peu de choses sur ce que tu as dit, mais je vais un peu compléter rapidement quand tu disais que oui, c'est vrai que c'est une sucrerie pour enfants parce qu'au final, c'est une histoire qui se compte au fur et à mesure qu'elle se déroule et qu'on tombe justement ce que tu disais au niveau du personnage avec un côté justement un peu burlesque. C'est-à-dire qu'ils sont assez laids, mais qu'ils ont un côté assez drôle qui s'en dégage dans un mélange qui évolue dans cette sorte de finalement vallée étrange quand on essaye de finalement de voir les personnages et d'essayer de les identifier, mais qui reste assez agréable au niveau de la technique et des effets utilisés aussi, qui est assez surprenant et qui est rempli de pas mal d'inventivité.
Moi, je vais jouer les méchants comme d'habitude. Hein. J'ai vraiment un peu de mal avec l'univers d'Alice que je ne connais qu'à travers le cinéma, en fait. Et moi, le film, je le trouve d'une laideur quand même... d'une grande laideur, quoi. Enfin, surtout les maquillages. Il y a des personnages. Pourquoi ils sont maquillés comme ça? Je pense aux fameux jumeaux, là, Tweedledee et Tweedledum. Et il y en a plusieurs personnages maquillés ainsi. Je trouve ça vraiment laid. Même parfois, ça ne me convainc pas. Enfin, j'ai du mal à rentrer dans le film. Et d'ailleurs, tu parlais de William Cameron Menzies, qui n'a pas signé que le scénario, elle a aussi fait la direction artistique, comme apparemment c'est son travail, c'est son premier travail. Et moi, le film ne me convainc pas du tout. J'ai beaucoup de mal avec cet univers. Alors, peut-être que si je lisais les romans originaux, je le verrais d'un autre œil, mais... Là, les adaptations cinéma ne me convainc guère.
Oui, bah j'ai abordé hein, le côté directeur artistique. C'est pour ça que j'ai expliqué que c'est pour ça qu'il a écrit le scénario en fonction de la direction artistique en fait, qu'il souhaitait donner au film. Et je crois surtout qu'en fait, si tu veux, ces maquillages qui effectivement sont assez particuliers. Hein, quand je parlais de films effrayants, c'est de ça dont je parlais, hein, de certains personnages qui sont comme ça, assez laids en fait, hein, comme tu l'as dit. Je crois que c'est surtout assez fidèle à John Tenniel. John Tenniel, c'est l'illustrateur de l'édition originale. Et en fait, dans Alice au Pays des Merveilles, l'illustrateur tient une place très importante. Et à chaque nouvelle édition, et il y en a eu un paquet, à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, est mentionné le nom de l'illustrateur. C'est-à-dire, c'est vraiment un univers autant graphique que littéraire. Voilà. Donc, je pense, les maquillages sont en fait assez fidèles à l'univers de John Tenniel, aux illustrations qu'il avait produites pour l'édition originale et puis que d'autres illustrateurs un peu après ont suivi et se sont engouffrés dedans quoi.
Bah tu me donnes pas envie de me plonger dans les livres. Hein. Bah,
après au niveau de l'écriture moi je trouve les deux ouvrages très intéressants et se lisent bien et de toute façon il y a une richesse dans Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir, il y a forcément une richesse thématique un peu inépuisable là-dedans parce que sinon pourquoi autant de créateurs se seraient inspirés de cet univers pour le retranscrire, le digérer, le rebalancer sous différentes formes et parfois même les plus étonnantes. Alors moi j'avais noté par exemple quelques exemples qui moi m'étonnent toujours. Par exemple, on va se faire une petite pause musicale. On va se faire une petite pause musicale et on va écouter le morceau White Rabbit. Qui est un morceau du Jefferson Airplane.
Vous écoutez Culture Prohibée. Alors donc on a écouté ce morceau de Jefferson Airplane. Alors pourquoi j'ai diffusé ce morceau? Évidemment parce que ce morceau, le White Rabbit, le lapin blanc, s'inscrit complètement dans une sorte de délire qui est arrivé à une époque. C'est un morceau culte qui a été joué à Woodstock. C'est le morceau culte du Jefferson Airplane, qui était un grand groupe un peu psyché, un peu barré, qui prenait beaucoup de psychotropes et qui avait un univers très particulier. C'est vachement bien d'ailleurs, Jefferson Airplane. Moi, j'aime beaucoup. Et ce morceau-là est particulièrement culte, et en particulier parce qu'il y a un lien qui est fait à l'époque, surtout avec les hippies font ce lien. C'est un bouquin culte pour les hippies, Alice au pays des merveilles, parce qu'ils y voient une allégorie du plaisir que procure la prise de drogue, et en particulier du LSD. Voilà. Donc ils y voient quelque chose de positif. Et donc White Rabbit, c'est une chanson qui tourne autour de ce sujet et qui est vraiment une chanson culte pour le mouvement hippie. Après, il va y avoir plein d'artistes, on en écoutera d'autres dans cette émission, qui vont s'inspirer. Alors là, je suis juste venu sur la musique, il y a eu des comédies musicales, des opéras, mais là, je parle vraiment de la chanson populaire, quoi. Par exemple, on a un groupe comme les Stranglers qui vont faire The Mad Hatter, très bon morceau qu'on écoutera aussi dans l'émission. Et puis, il y a le fameux I Am The Walrus des Beatles, qui signifie littéralement « Je suis le morse ». Le morse, donc, qu'il y a dans De l'autre côté du miroir, la suite d'Alice au pays des merveilles. L'influence est très grande, et là, ce sont que quelques exemples. Parmi d'autres, il y a par exemple, mais ça, je crois que... Après, je vais laisser Damien en parler. Il y a un morceau qui s'appelle « Her name is Alice » de Chinedown. Il y a aussi un groupe français qui s'appelle « Le Chapelier fou », par exemple. Ça, c'est pas innocent. C'est pas innocent du tout. Et puis... on parlera d'autres choses. Je vais laisser Damien parler un peu de Chinedown parce qu'il y a tellement de choses. Parce que sinon, ce sera une émission catalogue, on va dire, et ça découle d'Alice, ça découle d'Alice. On va rester sur. On va essayer de cloisonner un peu, quoi, parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Mais toi, tu voulais nous parler, Damien, donc de Her Name is Alice de Chinedown, qui est une chanson qui a été mise au goût du jour, si je ne me trompe pas, au moment de la sortie du film de Tim Burton.
Her Name is Alice de Chinedown est la musique qui va servir de bande originale au film Alice, qui est pour accompagner le film de Tim Burton, qui est une musique que j'ai beaucoup aimée à sa sortie. Je trouvais ça intéressant justement d'accompagner le film de Tim Burton et l'univers de Alice au pays du merveille avec un univers, avec un style musical un peu plus rock, ce qui dénote assez. Après, ce qui me rend triste par rapport à l'utilisation de la musique, c'est que généralement, quand on fait une musique pour les films, avant, il y avait toujours espoir que la musique soit dans le film elle-même. Et aujourd'hui, c'est juste une musique qui est utilisée pour finalement faire le générique, qui me déçoit énormément. Mais je ne vais pas rester sur la musique en soi pour reprendre un des dires qui a été dit, qui est... Thomas a dit qu'il n'était pas trop fan de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et en soi, je suis un peu comme lui, c'est-à-dire que c'est loin d'être l'un des univers que j'aime... le plus exploré. Par contre, c'est un univers devant lequel je suis halluciné de sa richesse, notamment à travers ses personnages qui sont tous, les uns comme les autres, adorés à différentes échelles. Et je pense que le personnage le plus apprécié en soi est le Cheshire, le chat qui apparaît et disparaît constamment.
Après, il y a tant de personnages, Humpty Dumpty, qu'on retrouve énormément, qu'on va retrouver par exemple dans Les Aventures du Chapoté, dessin animé assez récent qui a fait le bonheur de mes petites filles, voilà. Et personnages issus de la franchise Shrek, parce qu'on peut parler d'une franchise. Et puis parfois, on retrouve l'influence d'Alice dans des choses assez étranges. Par exemple, je vais parler là de deux films faits par des Britanniques qui sont vraiment, vraiment particuliers. C'est le Tommy de Ken Russell, par exemple. Tommy de Ken Russell, qui est vraiment un film culte, un opéra rock incroyable, écrit par les Who. C'est pas n'importe quoi, les Who, quand même. Merde. Alors,
plus, il y a différentes versions du vinyle. Bon, moi, je les ai toutes, hein, je ne peux pas faire saliver. En particulier celle avec le London Philharmonic Orchestra, qui est quand même pas si évidente que ça à trouver. Il y a une version avec les acteurs, parce qu'il y a Oliver Reed, Tina Turner, Roger Daltrey, évidemment, parce qu'il y a Roger Daltrey qui interprète Tommy, le personnage principal. Et il y a le vinyle chanté par les Who, uniquement double vinyle, très beau, voilà. Et qu'est-ce que ça raconte, Tommy ? Bah, Tommy, ça raconte l'histoire d'un jeune type, quoi, bah, de Roger Daltrey, hein, avec ses belles bouclettes, tout ça, voilà, sa gueule de rocker de l'époque, quoi, sa belle gueule de rocker. Et Roger Daltrey, il est aveugle et sourd, muet, et tout à coup, il retrouve tous ses sens, et il devient champion du monde de flipper. Il est aveugle, sourd et muet, il est champion du monde de flipper, et il retrouve ses sens, voilà. Et donc, on retrouve tout cet univers de l'éveil aux sens, qu'il y avait dans l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Et après, il y a plein de petites références disséminées partout dans le film. Ce n'est pas une ressucée d'Alice au Pays des Merveilles, ce film. Hein. Mais Ken Russell se nourrit du film. Il y a par exemple la scène des haricots, où je crois que c'est Teresa Russell, parce que je n'ai pas revu le film pour préparer l'émission, excusez-moi. Mais je l'ai vu plusieurs fois, c'est un film que j'aime bien. Et avec tous ses excès, ses défauts et ses qualités, d'ailleurs, c'est un film d'une époque, quoi, voilà. Et il y a une scène avec des haricots, voilà, je ne vous en dis pas plus, mais qui évoque évidemment Alice. Et puis, il y a surtout la Acid Queen, quoi, qui est la fameuse reine. Voilà, là, elle ne coupe pas des têtes, elle est... C'est la reine de l'acide, de la drogue aussi, donc des paradis artificiels. Elle est campée par Tina Turner dans le film, qui est au summum de sa gloire, de sa beauté, qui fait une soul absolument incroyable à l'époque, quoi, voilà, qui est une chanteuse extraordinaire, parce qu'il ne faut pas cantonner Tina Turner aux dernières années de sa carrière où elle a fait des choses un peu plus commerciales. C'est une fabuleuse chanteuse de soul funk, voilà, avec son mari qui était moins fabuleux avec elle, mais enfin ça faisait un couple assez extraordinaire, Ike et Tina Turner, et ça a donné des albums magnifiques, voilà. Et donc on retrouve tout ça, c'est assez étonnant, et peut-être moins étonnant, j'en parlais tout à l'heure, il y a un film extraordinaire de Robin Hardy qui s'appelle The Wicker Man. Alors, The Wicker Man qui est un peu remis au goût du jour au moment où on enregistre cette émission masquée, c'est-à-dire que c'est un moment où normalement The Wicker Man devait ressortir au cinéma, donc on sait pas trop où on en est là, voilà, dans une version un peu différente des précédentes, enfin, c'est un film qui a toujours été, c'était compliqué parce que c'est l'histoire d'un flic qui va sur une île isolée parce qu'il y a des disparitions d'enfants. Un flic puceau, parce que ça c'est important de préciser, il est puceau, il n'a pas encore consommé son mariage. Et sur cette île, il y a des rites païens. Voilà, il y a des rites païens et ça va le traumatiser. Et il va découvrir pourquoi les enfants ont disparu. Et puis, il va en découvrir plus sur cette histoire de The Wicker Man. Et surtout, il y a un moment où il y a une séquence de jeu un peu étrange où les personnages croisent des épées. Ils croisent quatre épées. Et en gros, s'ils réunissent les épées, ils vous coupent la tête. Et tous les gens du village passent, dont certains masqués, beaucoup masqués, passent parce que c'est une sorte de carnaval comme ça, un peu particulier, quoi, qui s'inscrit au sein d'un rite païen. Et je ne vous en dis pas plus parce que si vous n'avez pas vu le film, c'est quand même un film, un grand film à voir absolument. Et les personnages passent au milieu de ces quatre épées. Voilà, passent tous les uns après les autres. Alors, on voit qu'il y a, c'est un jeu, c'est de l'amusement. Ils font une ronde, ils chantent une chanson en même temps. Mais quand ils passent la tête au milieu, ils savent bien qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va se faire couper la tête. Voilà. Et là, ça tombe sur un personnage tout droit échappé d'Alice, le lièvre de Mars. Le lièvre de Mars, dont j'ai cru comprendre que dans la culture populaire anglaise, il est aussi il a aussi une sorte de chanson populaire un peu coquine qui en ferait une sorte de qui mettrait en lien avec la sexualité, la fertilité, voilà, ce qui est en lien avec le sujet du film, hein. Voilà, donc toutes ces références là on les retrouve dans certains films, vous voyez, moi, Tommy de Ken Russell ou The Wicker Man de Robin Hardy, c'est pas forcément on n'aurait pas forcément cru qu'il y a du Alice au Pays des Merveilles là-dedans, mais il y en a quand même.
Child ain't all he should be now. This girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one night. I'm the gypsy, the acid queen. Pay me before I'm gone. I'm the gypsy, and I'm guaranteed to mend his aching heart. Give us a room. Close the door, leave us for a while. You won't be a boy no more. Young, but not a child.
Écoutez Culture Prohibée spéciale Alice au pays des merveilles.
If your child ain't all he should be now, this girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one more night.
Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, Alice au Pays des Merveilles a donné lieu à toute la mythologie du conte, a donné lieu à des adaptations, à des choses assez délirantes parfois. Et il y a un film de Bud Townsend, un film de 76 qui s'appelle Alice in Wonderland, an X-rated musical fantasy, dont voulait vous causer. Alors c'est un film pornographique, mais c'est pas très très hard. Voilà. Alors c'est un film assez étonnant, c'est-à-dire qu'on a une Alice qui est une jeune femme, qui a la vingtaine, quoi, voilà, qui est, qui est bibliothécaire ou quelque chose comme ça, voilà. Et elle tombe dans l'univers d'Alice, voilà. Elle passe de l'autre côté du miroir en lisant le livre, et elle se retrouve dans l'univers d'Alice, et donc ça devient, c'est très fidèle à l'univers d'Alice, puisqu'on va retrouver tous les personnages, enfin, ou quasiment tous les personnages de l'univers d'Alice. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup au film de Norman Z. MacLeod, hein, dans son déroulé. Sauf qu'évidemment, Christine Debel, donc cette actrice, qui ne joue pas, elle, de scène hard dans le film, qui ne faisait pas de scène hard, va donc vivre toutes ses aventures, on va dire, érotico-pornographiques, voilà, autour de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est articulé aussi sous forme de comédie musicale, un peu pour pasticher le Disney. Hein. Tous ceux qui n'en peuvent plus de toutes ces chansons dans les films de Disney, je crois que mon ami Thomas ne va pas me contredire. Voilà. Jusqu'aux parents d'aujourd'hui, qui même s'ils n'ont pas vu le Alice au Pays des Merveilles, savent ce que c'est quand on entend 10 000 fois la chanson de la Reine des Neiges dans la journée. Donc, il y a un aspect comédie musicale
Mais bien, en plus, parce que les chansons sont vachement bien, sont bien orchestrées, c'est du bon boulot. La zik est vachement bonne. Elle est dans le ton de l'époque, hein, c'est pas un grand chef-d'œuvre musical, mais c'est assez chouette, c'est très soigné. Le film a des effets visuels assez rigolos. C'est plutôt festif, c'est assez joyeux en fait, c'est assez naïf. C'est plutôt une ode à la libération sexuelle, quoi. Voilà, ce qui est assez étonnant au vu du final du film d'ailleurs. C'est-à-dire que le film débute et elle va se retrouver, il va lui arriver des situations assez étranges. Par exemple, elle va rencontrer les chats et les chats vont lui lécher tout le corps, ce qui va éveiller ses sens. C'est le début. Elle va découvrir la masturbation, la fellation avec le chapelier fou. Voilà, avec évidemment des moments un peu rigolos, pas subtils, mais bon, par exemple, les nombres indiqués sur le chapeau du chapelier fou, c'est en fait la taille de son pénis. Voilà, ce ne sont pas les nombres habituels qui sont indiqués d'habitude dans les versions d'Alice, évidemment. Et en fait, elle va avoir un éveil des sens, un éveil de la sexualité, et on va aller jusqu'à un climax où il y aura quand même des choses assez révolutionnaire, on va dire, de proposer dedans, puisqu'on va voir, par exemple, une relation interraciale, qui reste un tabou aux États-Unis, la relation interraciale, même encore aujourd'hui. Voilà. Et assez étonnamment, la fin du film, cette Alice se réveille et décide de vivre une vie bien rangée avec son bonhomme, un flic, de vivre une vie bien rangée, bien pépère, et ils eurent beaucoup d'enfants et ils vécurent heureux. Voilà. C'est assez étonnant ce final qui en fin de compte est plutôt réactionnaire comparé au reste du film. Après, il n'en demeure pas moins que des films érotiques comme ça, je veux bien en voir tous les jours parce que c'est assez chouette, c'est joli, c'est bien mis en scène, la photo est assez soignée. Moi, j'ai été agréablement surpris par ce film qui, pour le coup, Thomas est bien moins laid et plus joyeux que la version de Norman Z. McLeod, puisque tu l'as trouvé si laide que ça.
On peut dire ça, on peut dire que c'est beaucoup plus agréable que la version réalisée par Norman Z. McLeod. Effectivement, c'est beaucoup plus affriolant et attrayant que ce film avec ses maquillages affreux. Là. Puis même les effets, je trouve que la direction artistique, elle n'est pas belle. Quoi. Enfin, en même temps, tu me diras, ça vieillit. Mais là, c'est vrai que c'est un film qui est très dans les années 70, qui peut rejoindre quelque part le Tommy de Ken Russell avec ce petit côté années 70 hippie, mais qui est complètement contredit à la fin avec cette ode au conformisme qui rend le film quand même un petit peu hypocrite quand même.
Qu'est-ce qu'il est bien, mais qu'est-ce qu'il est bien. Je ne m'attendais pas du tout à ça au départ quand je me suis posé devant le film et l'idée d'une comédie musicale pornographique autour d'Alice au Pays des Merveilles, c'est vraiment une idée géniale. Déjà, les musiques, comme tu disais, sont très sympas, mais même il y a un effort aussi au niveau du langage pour faire que chaque parole soit en fait fasse des rimes qui rend l'entièreté du langage assez poétique et très bien rythmé. Mais il y a aussi le chapitrage qui est excellent, vu qu'à chaque début de mini scénette, il y a une sorte de chapiteau qui tombe avec écrit le nom de l'épisode. Juste derrière le chapiteau, quelqu'un dessine au feutre rouge et transforme ce simple chapiteau en quelque chose de coquin pour annoncer la scène. C'est vraiment une véritable petite pépite, presque un côté midnight movie finalement par sa folie. Il y a beaucoup d'innovation, notamment dans la mise en scène et encore plus pour le final, notamment la scène du procès qui est absolument absurde, mais un véritable régal. Tu parlais de notamment de scènes interraciales. J'ai quand même été surpris qu'ils aient quand même, pour ces années-là, choisi un homme noir pour faire finalement le roi du royaume d'Alice au Pays des Merveilles. C'est très intéressant parce qu'ils reprennent finalement ce petit côté finalement initiatique, conte initiatique, pédagogique qui était Alice au Pays des Merveilles, sauf que là, ils choisissent de faire de l'initiation sexuelle pour le personnage principal. Et en effet, la fin a quelque chose d'assez cynique parce que finalement, elle traverse toute cette folie, même une orgie, ainsi de suite. Et au final, elle décide de se ranger avec un seul homme. Et je dirais que le côté est encore plus poussé parce que dans la scène finale, elle voit deux personnages qui partent à l'opposé d'elle et son mari. Et ces deux personnages sont justement le chapelier fou et le lapin blanc qui finalement sont dans des habits de gens normaux qui vont juste à la pêche. Un peu comme pour dire que finalement, Alice au Pays des Merveilles, c'était juste une phase et que derrière, il y a vie réelle.
Il faut savoir que Bud Todson, c'est un peu un étrange parcours parce que c'est quelqu'un qui vient de la télé d'abord. Et qui décide de faire un peu de film d'horreur, de faire un peu de film fantastique, horrifique, parce que ça marche bien à la fin des années 60. Et puis tout à coup, il nous fait en 76 ce film-là, ce film pornographique, quoi, qui, bon, il surfe en vérité sur les modes, hein, de l'époque, quoi, hein. Il surfe sur ce qui rapporte des sous, hein. Après, il est ce qu'on appelle en fait un cinéaste de drive-in. Voilà, il est vraiment ce qu'on appelle un cinéaste de drive-in. Après, il va enchaîner après ce film-là sur une comédie qui s'appelle Coach. Et puis après, il y aura The Beach Girl et Love Scenes qui sont, ouais, bien sûr, là, il n'y a pas, on voit un peu où il retraîne un peu vers l'érotisme et tout ça. Mais c'est un drôle de parcours. Et il fait très peu de films, en fait. Hein. Il fait 9 films comme ça, 9 films, voilà. Et puis, 3 petits tours et puis s'en va, j'ai envie de dire, quoi. Hein. Il est né en 1921, quand même. C'est pas un genou quand il fait ce film-là. Et moi, je pense qu'il est opportuniste, en fait, quoi. Il se laisse porter par la mode, par la libération sexuelle de l'époque. Bon, il arrive un peu après, parce qu'on est en 76 quand même, mais enfin, c'est dans l'époque, c'est encore dans l'air du temps. Malgré tout, il apporte quelque chose de sa formation assez classique, en fin de compte, hein, dans la mise en scène d'un certain savoir-faire, et qui rappelle que la pornographie a été autre chose que le gonzo et ce qu'on voit aujourd'hui, qu'il y a eu à une époque où il y avait de véritables ambitions cinématographiques quand on faisait de la pornographie, sans vouloir faire du Kubrick, mais il y avait quand même un peu plus d'ambition, quoi. Écoutez Culture Prohibée. Thank you. l'univers d'Alice, il a aussi infusé dans le comics, dans les comics. Et là, je pense particulièrement à Batman, hein, mon cher Damien.
Le personnage du Chapelier Fou est son personnage le plus connu, mais il y a d'autres éléments qui apparaissent, comme un peu plus récemment l'introduction d'un personnage qui a le même rôle que le Lapin Blanc et que Batman est incapable au final d'attraper. Donc on retombe sur cette esthétique. Ce qui est intéressant, c'est que si vous mettez Alice au Pays des Merveilles à Gotham, la ville qui pervertit tout, pervertit même les rêves les plus merveilleux, et le Chapelier Fou l'incarne bien, vu qu'il est constamment en quête de finalement son Alice, et il a sa volonté finalement de manipuler le monde qui l'entoure pour finalement rentrer dans sa propre folie, ce qui en crée un monde destructeur. Et en parlant de destruction... Il y a le film Resident Evil qui a détruit pas mal d'espoir au niveau d'adaptation des jeux vidéo, donc fait par Paul W.S. Anderson en 2002, qui est le pire des réalisateurs qui se nomme Anderson, entre autres, avec une filmographie qui ressemble beaucoup à une torture.
Ça dépend, il a démarré dans la SF avec des choses plutôt intéressantes, je trouve. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas.
Event Horizon, c'est vachement bien.
Voilà. Event Horizon reste une référence, en effet. Mais après, avec ce qu'il a enchaîné, je serais moins gentil avec lui. Enfin, je ne suis pas très gentil avec lui, mais il y a un truc assez particulier qui est que j'aime les films Resident Evil. Alors là, comprenez-moi bien, je les aime pas parce que je les trouve géniaux et tout, je les aime bien parce que, en soi, à chaque fois que je les regarde, je les déteste, mais j'ai une sorte de plaisir à cracher mon venin dessus à chaque fois que je les regarde. Et pourtant, tout avait bien commencé, vu que quand j'ai découvert Resident Evil, le film, j'avais joué déjà aux jeux vidéo, le premier, le deuxième sur PlayStation, et le quatrième volet que j'ai adoré, et en fait, le film me plaisait, j'aimais bien sa sympathie et tout. Et donc, pour vous parler de l'histoire, ce premier film raconte l'histoire de Alice, jouée par Mia Jovovich, qui se réveille finalement dans sa maison, grande manoir dont elle a perdu la mémoire. Et en fait, une troupe de soldats débarque et commence à aller finalement dans les sous-sols de sa maison. Et on se rend compte qu'en fait, cette maison est posée sur un laboratoire géant de l'Umbrella Company dans lequel un virus s'est échappé. Et un virus qui transforme les gens en zombies. Et de base, j'avais pas encore... La première fois que je l'ai vu, j'avais pas fait le lien avec Alice au Pays des Merveilles. Et en fait, en revoyant le film, je me suis dit, mais on a une Alice finalement qui descend... Enfin, finalement, qui va un peu dans le trou de terrier pour aller à l'aventure. Et la grande menace finalement de ce premier film, ce n'est pas seulement les zombies en soi, mais c'est le logiciel système défensif qui porte le doux nom de la Reine Rouge et qui a tendance à finalement démembrer les personnes qui tentent de s'approcher d'elle. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, comme je disais, Alice a une quête initiatique pour finalement un peu pédagogique pour grandir et en apprendre sur la vie. Et ben ici, c'est un peu pareil avec cette Alice qui finalement, au fur et à mesure que l'aventure se développe, se rappelle de qui elle est. Et en fait, son initiation se base sur finalement retrouver son identité et finalement retrouver une sorte de code moral, même si... Faut pas non plus trop extrapoler là-dessus. Resident Evil n'est pas le seul film qui finalement se sert de Alice au Pays des Merveilles. Il y a également Coraline de Henry Selick. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'adaptation du conte noir de Neil Gaiman, un auteur que j'adore et dont on a déjà fait l'éloge. Et je vais pas reprendre ici, mais c'est surtout Henry Selick qui est un gars en fait qui a béni mon enfance à travers notamment L'étrange Noël de Monsieur Jack ou encore James et la grosse pêche pour ne citer que. Donc Coraline, c'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune fille aventureuse nommée Coraline, trouvant un monde parallèle idéalisé derrière une porte secrète dans sa nouvelle maison, ignorant que son monde alternatif contient de sombres secrets. Pour accéder à ce monde, Coraline passe par une trappe qui est dans sa maison et qui en fait a un effet de tunnel un peu comme un terrier de lapin. Et autre élément qui reprend, c'est finalement que Coraline est guidée dans cet univers par un chat qui a la capacité de disparaître et de réapparaître d'une façon qui nous rappellera essentiellement le chat dans Alice au Pays des Merveilles. Mais il y a une certaine opposition qui est faite entre les deux mondes. Là où Alice propose un univers un peu plus printanier, ici, nous sommes dans un univers un peu plus d'automne. Le film chevauche entre Alice et finalement le magicien d'Oz qui s'inspire déjà de Alice, avec la thématique de grandir, ou plutôt dirais-je de rêver différemment.
Nous allons conclure cette émission avec les dernières phrases de l'ouvrage Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Les yeux fermés, elle se croyait au Pays des Merveilles. Elle savait bien cependant que dès qu'elle les rouvrirait, ce serait de nouveau la triste réalité. L'herbe ne serait plus courbée que par le vent. Le balancement des roseaux agiterait seul la mare.
Le bruit des cuillères à thé ne serait que le tintement des clochettes du bétail. Les cris perçants de la reine deviendraient l'appel du berger. Et les éternuements du bébé, les glapissements du griffon et les autres bruits étranges ne seraient que les bruits confus de la ferme en activité, tandis que les mugissements des troupeaux dans le lointain remplaceraient les lourds sanglots de la tortue. Ensuite, elle se dit que sa petite sœur deviendrait une femme, qu'elle garderait son cœur simple et aimant, et qu'elle aimerait sans doute rassembler autour d'elle les petits-enfants et faire briller leurs yeux en leur racontant de féeriques histoires, peut-être son rêve au pays des merveilles, et qu'elle comprendrait leur grand chagrin et leur grande joie en se rappelant sa propre enfance et les heureux jours d'été. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier d'Ila Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis et Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard and The Last But Not The List. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine. You see?